imaginez une approche de thérapie réputée comme étant très efficace pour traiter les traumatismes, mais dont on ne comprend pas encore pourquoi elle fonctionne. Ça a un côté assez mystérieux, voire magique, non ? Vous l'avez peut-être déjà deviné, dans cet épisode nous allons parler de l'EMDR, une thérapie qui a le vent en poupe en ce moment. Avec des stimulations visuelles, il serait ainsi possible de traiter les traumatismes là où d'autres approches se cassent les dents. Mais est-ce que cette thérapie fonctionne sur tous les types de problèmes et sur tous les types de patients ? C'est ce que nous verrons dans cet épisode où Catherine nous expliquera sa rencontre avec cette approche en tant que patiente, puis en tant que professionnelle. Si vous venez de découvrir notre podcast, vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et YouTube, et vous abonner à notre Lettre Psy. La Lettre Psy, c'est un email gratuit écrit par Catherine et moi, avec 3 articles sur la psychologie et la psychothérapie, et aussi une citation. On l'envoie une semaine sur deux, et l'inscription se fait en quelques secondes sur notre site internet catherinelapsy.com. Alors qu'est-ce que c'est que l'EMDR ?
Bah, ça veut dire mort de rire, non ? C'est une thérapie par le rire.
Wow.
Ah, c'est une blague. EMDR, je vais faire... pour faire court, c'est une approche de traitement des traumatismes psychologiques. Donc EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ça veut dire reprogrammation et désensibilisation par les mouvements oculaires. Donc par désensibilisation, on entend avoir en gros une émotion moins importante par rapport à certaines situations, donc on est moins sensible à certaines situations, donc ça c'est un processus qu'on connaît aussi dans d'autres approches, hein, quand on fait ce qu'on appelle de l'exposition, on désensibilise, on rend les choses moins sensibles pour notre organisme et ça nous rend plus tranquille. Reprogrammation, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que en EMDR, l'hypothèse de travail, c'est ce qu'on appelle le traitement adaptatif de l'information. Peut-être les gens qui connaissent l'EMDR ont déjà vu le système TAI, donc TAI, traitement adaptatif de l'information. L'idée c'est que là ça va rejoindre un peu les TCC, c'est que notre cerveau reçoit plein d'informations, de stimuli extérieurs, visuels, sensoriels divers, mais aussi à l'intérieur de nous, donc les sensations qu'on peut avoir, et notre cerveau va traiter ces informations pour savoir comment il doit réagir par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une douleur et il doit en faire quelque chose? Est-ce qu'il y a un stimulus extérieur, il doit se diriger vers ce stimulus, etc. Donc voilà, et on va considérer que quand on a des traumatismes, le traitement de l'information n'est plus adaptatif, c'est-à-dire qu'il est plus adapté à notre vie de tous les jours, et c'est pour ça qu'on commence à avoir des comportements ou des pensées ou des choses qui se passent plus très bien dans notre cerveau parce que c'est plus adaptatif. Donc c'est ça, désensibilisation et retraitement. On veut retraiter pour que les informations redeviennent adaptatives, la manière dont le cerveau les interprète. Mouvement oculaire, c'est parce qu'au tout début, pour faire ça, cette désensibilisation et cette reprogrammation, on faisait ça avec des mouvements oculaires. Quand ça a été développé, enfin découvert et développé.
Alors c'est venu des États-Unis. Hein.
C'est venu des États-Unis, c'est une approche anglo-saxonne.
Et Francine Shapiro.
Décédée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, qui avait, voilà, par hasard.
Je crois que la légende disait que quand elle se baladait dans les parcs, elle remarquait qu'elle arrivait à traiter ses propres problèmes.
Parce qu'elle avait
problèmes.
Un cancer, ouais. Et puis elle était anxieuse par rapport à ça, et elle se sentait mieux, effectivement, et elle a pensé que c'était parce qu'elle regardait les oiseaux de droite à gauche et qu'elle avait des mouvements oculaires. Donc elle a commencé à utiliser ça avec... c'est la légende, comme tu dis, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est, mais...
En tout cas, elle a réussi à vendre son projet. À un milieu universitaire, visiblement.
Voilà, et du coup, il y a eu des recherches, c'est ça qui est intéressant, et moi, c'est ça que j'aime dans le MDR, c'est que du coup, il y a beaucoup de recherches, encore aujourd'hui, c'est en plein développement, et c'est une approche qui n'est pas parfaite non plus, hein, mais qui a le mérite d'essayer de vérifier ce qu'elle avance et ses protocoles. Et donc voilà, on ne sait pas exactement pourquoi ça marche, on a pu maintenant montrer que ça marche à tel point que c'est recommandé par la HAS, hein, la Haute Autorité de Santé, même si c'est une approche qui est surveillée aussi parce que en fonction de son utilisation, elle peut être un petit peu délicate, c'est pas si simple, on peut resensibiliser si on ne fait pas assez justement, et en rendre encore plus intense la réaction qu'on peut avoir à certains événements, mais moi je trouve que c'est une approche qui est hyper intéressante. Et alors au début c'était seulement avec le mouvement oculaire, puisque Francine Shapiro a priori s'occupait de vétérans de la guerre du Vietnam, pour le coup qui avaient beaucoup de traumatismes, et donc elle a testé ça, elle a fait de la recherche avec eux. Alors on ne sait pas exactement pourquoi ça fonctionne. Au début on pensait que c'était parce que ça reproduisait les mouvements oculaires qu'on a quand on est dans le sommeil paradoxal, mais a priori ce serait pas ça.
Parce que ça aurait pu être, vu qu'elle se baladait dans le parc, ça aurait pu être le bruit des oiseaux aussi, tout simplement.
Et ça aurait pu être le bruit, effectivement.
Ouais. Voilà, donc c'est un peu marrant.
Enfin, d'ailleurs, d'ailleurs, ça a été développé avec justement aussi un casque dans lequel tu as des bruits dans les oreilles. Et puis aussi avec ce qu'on appelle le tapping, c'est-à-dire qu'on va stimuler sensoriellement la kinesthésie. Donc du coup, après, il n'y a pas eu que les mouvements oculaires
qui sont rentrées en jeu. Hein.
Voilà, il y a d'autres, comment on appelle ça, les stimulations bilatérales alternées. En fait, il faut qu'elles soient alternées, droite-gauche, droite-gauche. Donc, il y a eu des hypothèses qui disaient c'était ça active cerveau droit, cerveau gauche. Bon, il y a plein d'hypothèses. On cherche encore pourquoi ça fonctionne, parce qu'il semblerait que quand même ces stimulations ont un plus par rapport à si on les faisait pas. En fait, hein, y a des gens qui disent, notamment en TCC, bon, en fait, le MDR, c'est comme les TCC, les thérapies cognitives ou comportementales, on fait de l'exposition par l'imaginaire, c'est-à-dire qu'on réimagine des scènes, et puis on essaie on s'y expose, et puis on essaie de les désensibiliser. Mais a priori, les études en cours disent que non, quand on fait des stimulations bilatérales en plus de l'exposition, il se passe quelque chose, mais on sait pas exactement quoi. L'hypothèse actuelle, c'est que alors il y a deux hypothèses qui moi me convainquent quand même parmi celles qu'il y a. Vous pouvez aller sur le site de IFEMDR, l'Institut français de MDR, où vous avez justement la liste des hypothèses qui sont en cours de recherche pour savoir pourquoi le MDR ça fonctionne. Donc il y a la double attention, c'est le fait qu'on fait les stimulations, le cerveau il a plus de mal à se concentrer sur l'exposition justement, et donc il est dans un traitement qui est moins contrôlé, contrôlable. On est moins en train d'essayer de gérer la situation soi-même, puisqu'on a plus de mal à se concentrer, donc ça c'est la double attention. Et puis il y aurait la résonance stochastique qui dirait que quand tu stimules des neurones en même temps, avec deux choses différentes, ben, en fait ils déchargent en même temps et il se passe quelque chose de différent. Et donc il pourrait y avoir ça grâce aux stimulations bilatérales. Bon, ça c'est toujours en recherche du pourquoi ça marche, même si on sait que maintenant ça semble quand même pas mal fonctionner. Voilà. Je peux en dire. Je pourrais en parler des heures, comme vous voyez, mais bon, on va peut-être s'arrêter là.
Ça a l'air de te passionner, ouais.
Bah, comme, ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça ressemble une séance de MDR? Parce que c'est
alors ça, c'est la question à un million, parce que en fait, cette question, elle ne veut pas dire la même chose pour un patient ou une patiente et pour un professionnel de la question.
Ah bah, on va commencer par les patients.
Alors, pour un patient, en général, une séance de EMDR, c'est quand on fait ce qu'on appelle la phase de désensibilisation. C'est la phase 4 en EMDR, il y a 8 phases. Et donc, pour les patients, quand on fait de l'EMDR, c'est quand on fait justement les mouvements bilatérales alternés, donc soit avec les yeux.
Tu veux dire que c'est là, à partir de là, où ça devient visible pour le patient? Enfin, il était déjà dans un traitement EMDR, et on va dire que c'est à partir de la phase 4 que c'est visible qu'il fait de l'EMDR, si j'ai
bien
compris.
Pour les personnes qui ne sont pas professionnelles de l'EMDR, en fait, l'EMDR, c'est juste la phase 4, c'est l'outil EMDR. Alors que quand on est professionnel, on va dire non, l'EMDR c'est pas un outil, c'est une thérapie, c'est une manière d'aborder les choses, peut-être qu'on va approfondir après. C'est pas que, entre guillemets, l'outil avec les stimulations bilatérales alternées. Alors si je prends ça, comment ça se passe une phase de désensibilisation? Alors bon, bah, comme tu sais, j'aime pas trop décrire en détail, parce que comme c'est une approche qui est à la fois très efficace, mais à la fois si elle est mal utilisée, elle peut être vraiment perturbante, donc je voudrais pas que les gens utilisent ça tout seuls s'ils l'ont jamais fait, quoi. Mais en très gros, on va demander à la personne de se concentrer sur certains éléments de certains événements traumatiques qu'on a décidé ensemble avant, dans des phases précédentes d'ailleurs. Mmh. Et donc des éléments visuels notamment, émotionnels, etc. On va demander à la personne de se concentrer là-dessus, et pendant qu'elle se concentre, on va faire les stimulations. Alors en fonction, on va faire parfois avec les yeux, moi j'aime bien plutôt la stimulation kinesthésique, voilà, c'est-à-dire avec soit le tapping, soit moi j'ai une machine maintenant.
Des trucs qui vibrent, c'est ça?
Alors là avec la machine, oui, en fait les patients ont des vibrateurs dans les mains et ça vibre de manière alternée. Ça remplace ce qu'on appelle le tapping, donc c'est-à-dire où on va tapoter sur les genoux, sur les épaules ou sur les mains des patients de manière alternée. J'ai commencé à faire ça avec le Covid, puisque j'avais plus le droit de m'approcher des patients, et donc le tapping, il faut s'approcher quand même des patients. Et en fait, j'ai bien aimé ça, je trouve que ça combinait bien avec d'autres approches que j'utilise où les gens peuvent fermer les yeux, je trouvais que c'était pas mal. Même si en EMDR, là je suis en train de préparer ma certification, on nous demande quand même d'utiliser le mouvement oculaire, donc il va falloir que je revienne un peu au mouvement oculaire pour pouvoir faire valider ma certif, quoi. Voilà, donc pour les patients, cette phase-là, c'est on va décortiquer ensemble certains événements que on a trouvé ensemble dans la phase 1 et la phase 2. Donc sur lesquels on est d'accord, c'est très important que les patients soient d'accord, hein. C'est pas toi en tant que psy qui va dire on va traiter ça, parce que justement...
Tu vas pas forcer.
Ah ouais. Bah non, c'est très important, il y a des personnes qui ont, il y a certains traumatismes, il faut surtout pas commencer par cela, parce que ça va trop, on appelle ça les activer émotionnellement, ça va déclencher des choses vraiment très intenses, et puis les autres au contraire ça va tout couper, parce que c'est tellement intense que leur système va se couper émotionnellement, et du coup on pédale dans la semoule, c'est ce qu'on appelle la dissociation, on va être dissocié. Donc voilà, C'est ça, en gros, pour une personne qui pense que...
Et comment ça se passe? Donc, à la phase 4, il est mis...
Voilà, on va se concentrer sur certains éléments. Donc ça peut prendre un bon quart d'heure parfois, parce que c'est pas si simple de trouver les bons éléments visuels qui permettent au patient à la fois d'être activé émotionnellement, c'est-à-dire de ressentir quand même une émotion, et à la fois de pas être trop activé. S'il l'est complètement, en fait, on est plus tellement, enfin en tout cas en début de séance, si c'est déjà trop activé, ça va être un peu compliqué. Donc il faut trouver les bons éléments, ça peut prendre un certain temps. Et après, on va faire à peu près 30 secondes de stimulation bilatérale alternée. On fait une pause pour vérifier où en est le cerveau à peu près, pour vérifier justement qu'il n'est pas en train de repartir dans quelque chose. Nous, en tant que professionnels, à ce moment-là, en fonction de ce que va nous dire le patient, soit on fait une petite intervention, soit on dit rien. Si on voit que le cerveau est en train de traiter tout seul, entre guillemets, c'est le Graal de l'EMDR, on dit qu'il faut faire confiance au cerveau. Donc nous, on voudrait juste vérifier tous les 30 secondes que le cerveau n'est pas en train de repartir dans le traumatisme, donc de se resensibiliser. Et là, en fonction, on va faire ce qu'on appelle du tissage cognitif, bon, c'est un terme un peu technique, pour dire que bah, si tout va bien, on va rien dire, on laisse le cerveau du patient faire son boulot tout seul. Si on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de partir dans une direction où on est dans une resensibilisation, alors nous, on va avoir une petite intervention, voilà. Et dans certains cas, quand on voit que, en fait, peut-être, soit on s'est trompé de cible, soit la cible est trop activante, on va passer à une autre approche. Et la plupart des psys, là, vont utiliser de la dissociation structurelle, de la thérapie des schémas ou des choses comme ça, où on va faire une intervention un peu plus intense. En fait, pour les patients, ils continuent à garder les vibrateurs, donc eux, ils savent pas qu'ils sortent de l'EMDR.
Justement, là, concrètement, comment ça se passe pour un patient? Il y a le thérapeute qui est devant lui, qui bouge de droite à gauche, qui le touche autrement les épaules de droite à gauche.
C'est ça.
Ou alors on le met dans une machine. Comment ça se présente?
Il est assis. Par exemple, si on prend il est assis. Par exemple, si on fait les mouvements oculaires, le thérapeute va s'approcher. Je vais mettre mes doigts devant le patient et je vais faire des mouvements. Et je vais demander au patient de suivre des yeux sans bouger la tête, les mouvements que je fais. Tous les 30 secondes, je vais m'arrêter, je vais demander à la personne qu'est-ce qui vous vient maintenant, parce que justement, je veux vérifier où est-ce qu'elle en est la personne, est-ce qu'elle est en train de complètement paniquer, auquel cas j'ai peut-être des choses à dire ou à faire, ou bien est-ce que la personne est en train de faire traiter l'information à son cerveau du fait qu'il y a quelqu'un d'autre avec elle et du fait des stimulations bilatérales d'avant. Si toutes les 30 secondes, il n'y a rien qui se passe, moi, en fait, je vérifie toutes les 30 secondes, juste vraiment, c'est une vérification pour pas laisser la personne toute seule et juste être sûr que tout va bien. Mais en fait, je ne vais rien faire d'autre. Il y a des patients pour qui on fait vraiment ça. Et puis d'autres, de temps en temps, il va se passer quelque chose, on a besoin de faire une petite intervention. Donc je vais dire quelque chose pour aider le cerveau à nouveau à être dans quelque chose d'adaptatif de plus en plus. Et quand vraiment il se passe quelque chose d'hyper intense, je vais être obligée de sortir de l'EMDR. Parce qu'à ce moment-là, soit la personne est dans quelque chose de trop intense, soit elle est dans quelque chose de dissocié, donc elle ne ressent plus rien, auquel cas le cerveau n'est plus en train de travailler. Donc moi, à ce moment-là, je vais sortir de l'EMDR. Le patient ne le sait pas parce que je vais continuer à garder les vibrateurs, parce que moi, je trouve que c'est intéressant sur le plan de la double attention, justement. En plus, ça crée de la détente physique, donc souvent, ça, je trouve que c'est aidant. Mais moi, dans ma tête, sur un plan technique, je sais que je sors de l'EMDR et je vais utiliser des techniques notamment de reparentage, donc c'est plutôt de la thérapie des schémas, ou bien de dissociation structurelle, où on va discuter avec les différentes parties. Ça, c'est plus de l'EMDR à proprement parler, mais ça se marie hyper bien avec l'EMDR, parce que à ce moment-là, si tu sors, tu sens que l'EMDR, c'est en train de bloquer, en fait, t'arrives plus à créer quelque chose d'adaptatif, faire en sorte de réadapter finalement le traitement de l'information dans le cerveau du patient. Moi, je vais sortir pour faire des interventions autres. Pour le patient, voilà, il s'en rend pas compte. Et puis, une fois que j'ai traité ça, hop, je reviens à l'EMDR. À nouveau, je reviens tous les 30 secondes, je vais revenir à peu près, voilà. Donc ça, c'est une séance de désensibilisation, en gros. À la fin de la séance, en fonction du temps qu'elle dure, ça dépend Il y a des personnes qui font des séances d'une heure et demie. Moi, je garde mes séances de 50 minutes. Donc, des fois, le traitement du traumatisme, il n'est pas terminé. Donc tu vas pas laisser sortir ton patient comme ça. Bon, là, c'est bon, on était sur un truc hyper compliqué, allez, à la semaine prochaine. Bien sûr, tu fais pas ça. Donc dans ces cas-là, un quart d'heure ou 10 minutes avant la fin de séance, tu vas préparer des choses de ce qu'on appelle de stabilisation. Donc tu peux faire un lieu sûr, tu peux faire un contenant, tu peux remettre ton patient dans le présent. Enfin, on a plein d'exercices qui font que le patient, petit à petit, va sortir de qu'il était en train de traiter par rapport à des événements désagréables. Et donc, on va faire en sorte que voilà, il reparte apaisé de la séance. Et puis, s'il n'est pas en fin de séance, on va prendre un petit peu plus de temps, on va faire dépasser la séance pour ne pas laisser un patient partir dans tous ses états. Quand on traite des traumatismes, c'est important qu'on sorte de là de manière suffisamment apaisée, en tout cas.
Et donc, et du côté du thérapeute, du coup, si j'ai bien compris, c'est un protocole. Donc, tu m'as parlé des 4 étapes, ça s'arrête à la 4e ou ça continue?
Il y a 8 étapes. Il y a 8 étapes, donc Si tu demandes à un professionnel de l'EMDR comment ça se passe une séance de EMDR, bah, je vais te demander, ça dépend à quelle étape. Donc en fonction des étapes, bah, ça va être différent, parce que pour un professionnel de l'EMDR ou une professionnelle de l'EMDR, l'EMDR, ça n'est pas un outil, c'est une thérapie. C'est-à-dire, c'est une manière d'aborder le trouble. Et donc, moi, j'aime bien dire souvent, c'est pas tellement... Enfin, oui, on traite les traumatismes, mais c'est pas que une approche du traumatisme, c'est une approche par le traumatisme. C'est-à-dire qu'on considère qu'à la base d'un certain nombre de troubles, il y a des traumatismes. Et donc, on recherche ces traumatismes pour les traiter. Et du coup, bah, il faut déjà les trouver, donc il faut connaître un peu l'histoire du patient, donc ça c'est plutôt la phase 1. Une fois qu'on connaît l'histoire du patient, il faut faire ce qu'on appelle de la stabilisation émotionnelle, la phase 2. La phase 3, on va préparer les cibles qu'on a choisies ensemble, qui sont les plus adaptées aux troubles du patient, qui sont en lien avec son présent, parce que bien sûr, si on veut traiter les traumatismes, c'est parce qu'on espère que le présent va changer, sinon bon, on s'en fiche quoi. Donc voilà, la phase 4, bah, je viens de décrire des éléments de la phase 4. La phase 5, c'est qu'on va installer, on va en gros, ça s'appelle la phase d'installation, mais en gros, on va vérifier qu'on a bien traité la situation et qu'on peut mettre, on pourrait dire, des éléments positifs sur ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver que le traumatisme, l'événement a été agréable, hein, il restera désagréable, mais par contre, par exemple, si on culpabilisait de ne pas avoir fait assez, bah là, on va pouvoir être capable de dire « j'ai fait ce que j'ai pu ». Il faut vraiment que le patient, c'est pas juste qu'il le dise, il faut qu'il le ressente. Donc on a toute une étape pour vérifier ça, voilà. Et puis après voilà, t'as des phases 6, 7, 8 jusqu'à ce qu'on réévalue la séance d'après. On va quand même revérifier que ce qu'on avait fait, c'est, ça a tenu toute la semaine, parce que parfois t'as l'impression que t'as terminé quelque chose, mais quand le patient revient, en fait il y a des nouvelles choses qui sont apparues et on dit ah ok, on n'a pas tout à fait terminé, donc on va revenir quand même sur la situation. Et donc voilà, on va prendre toutes les situations une par une, comme ça toutes les situations qu'on estime qui sont constitutives du trouble, on va les traiter comme ça une par une.
Et toi, du coup, tu as essayé le MDR en tant que patiente.
Oui.
Est-ce que tu peux dire un peu comment ça s'est fait ?
Alors, ce qui était intéressant, c'est que moi, j'ai appris après, hein, dans ma formation, qu'il fallait que les patients ressentent des choses, puisqu'on fait de la désensibilisation, donc il nous faut quand même un peu quelque chose d'émotionnel. On essaye de faire en sorte que les patients soient, entre guillemets, activés.
Dans ta pratique, pas EMDR, dans ta pratique.
Si, dans ma pratique EMDR, quand j'ai été formée en tant que thérapeute à l'EMDR, on m'a expliqué qu'il faut que le patient soit activé. D'ailleurs, c'est en partie le rôle de la phase 3. Il faut qu'il ressente quelque chose, quelle que soit l'émotion, mais il faut qu'il ressente quelque chose, puisque toi, ce que tu veux, c'est désensibiliser, donc qu'il ait en gros moins d'émotions. Et en fait, moi, quand j'ai fait de l'EMDR en tant que patiente, je ne ressentais rien. Donc c'était typiquement ce qu'on va appeler en dissociation structurelle une patiente dissociée, c'est-à-dire ben, moi, j'étais coupée quand je repensais à mes événements traumatiques. Bien sûr... Bon, pour diverses raisons que j'avais étudiées avec mon psy, on savait que ces événements m'avaient marqué et me marquaient encore aujourd'hui, avaient une conséquence dans ma vie aujourd'hui. Mais par contre, quand j'en parlais, je ressentais rien. J'étais complètement... Mais rien du tout, quoi. C'était même pas j'étais agacée ou quoi. Je ressentais rien du tout. Et puis, on peut, en thérapie des schémas, on appelle ça le protecteur détaché. Donc, j'étais vraiment détachée des situations. Donc, c'est ce qu'on appelle la dissociation. Voilà. Alors, c'était pas une dissociation spécialement pathologique, hein, mais une dissociation protectrice, qui est d'ailleurs le rôle de la dissociation. Et donc, moi, je n'ai jamais rien ressenti. J'ai jamais été activée émotionnellement pendant mes séances de MDR avec mon psy. Et pourtant, ça a très bien marché. Enfin, ça a très bien marché. Oui, ça a marché, en tout cas. Mes symptômes ont en partie disparu. Je dis en partie parce qu'aujourd'hui, voilà, il se passe des événements qui font que je sais que si je voulais que ce soit parfait, je pourrais aller fignoler le truc. Maintenant, c'est plus des...
Le gros aveu frais, quoi.
Hein ? Le gros aveu frais, voilà. En gros, j'étais hypochondriaque. J'avais fait plein de thérapies sur plein de trucs. Et voilà, mais il me restait ça. J'avais une grosse hypochondrie. Aujourd'hui, ça se réactive que quand j'ai des examens médicaux à faire, mais sinon, la plupart du temps, je n'y pense quasiment plus. Donc ça a vraiment marché, mais je n'ai jamais rien ressenti.
Et ça t'a fait quoi quand tu faisais tes séances de MDR, quand tu terminais ta séance, tu te sentais libéré, allégé,
absolument
à un
pas.
Moment donné,
pour moi,
tu t'es dit, bah, ça y est, en fait, je vais vachement bien.
Absolument pas. J'ai pensé que ça marchait pas. Parce que justement, pendant mes séances, je ne ressentais rien, j'arrêtais pas d'entendre des trucs du genre « ouais, c'est très puissant ». Donc moi, j'imaginais un truc, on ressentait des trucs de ouf, une libération incroyable quand on était...
Voilà, le rayon de lumière.
Ouais, c'est ça, un truc un peu magique. D'ailleurs, c'était comme ça que le MDR était présenté. Ah, c'est une thérapie brève, en 5 séances, on peut guérir. Bon, ouais, ok, si t'as un seul traumatisme dans ta vie, oui, en 5 séances, tu peux le traiter. Maintenant, la plupart des gens qui... Si ton cerveau n'arrive plus à traiter des traumas, c'est qu'en général, tu n'as pas qu'un seul traumatisme dans ta vie. Donc, ça existe rarement des gens qui ont un seul trauma et qui ont besoin d'un accompagnement pour ça. Mais moi, je m'étais imaginé ça. Donc, je sortais de là, je disais, ça ne sert à rien. Tu vois, j'y allais parce qu'on m'avait dit d'y aller, parce que les gens autour de moi en avaient marre de mon hypochondrie. Mais voilà, j'y allais pour faire plaisir aux autres et il se passait rien, quoi. Et en fait, c'est au bout de quelques temps que c'est l'entourage qui m'a dit, putain, ça marche vachement bien ton truc, t'as plus de symptômes, quoi. Et moi, je m'en étais pas rendu compte. Donc du coup, ça m'a quand même créé ce truc de, bon, ok, faut arrêter avec le machin magique. Ça peut l'être, hein, je le vois bien avec certains patients, et à la fin de la séance, je dis, oh, putain, c'est ouf. Vraiment, il y a un truc, ils ont ressenti un truc hyper intense. Donc ça, c'est dans certains profils, soit de personnalité, qui sont très expressifs, soit de certains profils de fonctionnement, qui sont pas dissociés. Voilà, ils peuvent vivre leur émotion avec quelqu'un en face d'eux qui guide le truc et tout ça. Et voilà, et pour eux, ils ressentent des trucs. Mais alors moi, c'était pas du tout mon profil. D'ailleurs, j'en ai plein qui sont comme moi, qui sont donc soit protecteurs détachés, soit dissociés. Et du coup, l'avantage, c'est que ça m'a... Déjà, moi j'ai très confiance que ça marche quand même en fait. Bon après il y a des trucs différents à faire, on fait pas exactement pareil avec quelqu'un qui est très expressif et quelqu'un qui l'est pas. Mais en tout cas, non, moi je ressentais rien de spécial, je pensais que ça servait à rien, j'ai pas vu du tout l'évolution. Moi je me suis pas rendu compte que mes symptômes changeaient en fait. Ou même que je m'apaisais, tu vois, c'est juste... Après l'entourage quand ils m'ont dit, je dis putain mais ouais c'est vrai. C'est vrai, je suis vachement plus calme avec ça, j'y pense plus trop. Et... Donc voilà, donc c'est pas forcément un machin magique, tu peux sortir de l'MDR en ayant l'impression que ça va pas marcher, puis au bout de quelques semaines ou de quelques mois tu dis ah ouais quand même. Il y a quelque chose qui a bougé, ouais.
Et alors, pourquoi est-ce qu'en ce moment, en particulier, on en parle autant de l'EMDR ?
Alors, je sais pas trop. Alors, je pense que justement, c'est à côté de ce côté magique, à cause de ce côté magique, tu vois. Je pense que ça a été présenté un peu comme un machin surpuissant, ouais, baguette magique, ça résout plein de trucs, tout même.
Et donc ça, ce serait peut-être une histoire de communication,
Je pense que les approches anglo-saxonnes, ils sont meilleurs que nous en marketing. Hein, ouais, franchement, je pense qu'ils vendent mieux leurs trucs que nous. Donc, parce qu'ils ont peut-être la manière de penser l'argent et même la thérapie et même le marketing de manière générale dans les pays anglo-saxons est un peu différente. Et donc, peut-être qu'eux, ils n'ont pas de filtre par rapport à vendre une approche de thérapie, si je peux dire comme ça. Donc ça, c'est l'avantage, en tout cas, que j'y vois, tant que c'est fait de manière éthique, parce que ça permet de faire connaître mieux quelque chose. Bon, après, il peut y avoir aussi des dérives. C'est pas magique du tout, faut arrêter. Il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne. On continue de faire de la recherche pour bien circonscrire tout ça. On constate que ça marche. Il y a des choses qu'on comprend, etc. Et on continue d'essayer de comprendre pourquoi ça marche. Maintenant, c'est pas plus magique que d'autres trucs. Il y a d'autres approches qui marchent très bien. Donc, pour moi, je pense qu'à un moment donné, ouais, ça a été présenté comme une approche de thérapie brève, hyper rapide et qui allait vraiment révolutionner tout. Alors, moi, je trouve que ça révolutionne quand même parce qu'il y a beaucoup de recherches. Et que du coup ça nous permet bien de comprendre plein de choses sur le fonctionnement des traumas, même au-delà de l'approche EMDR elle-même, et des fonctionnements des troubles aussi, parce qu'il commence à y avoir une hypothèse, des hypothèses de fonctionnement des troubles qui diraient que derrière la plupart des troubles il y aurait des traumatismes. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, voilà, il y a plein d'autres approches qui marchent pour le traitement des traumas. C'est pas du tout la seule approche. Voilà, moi, j'aime beaucoup la thérapie des schémas aussi, le travail de dissociation structurelle. Tu peux très bien... Moi, je trouve que ça se marie bien, mais si jamais t'es pas formé à l'EMDR en tant que thérapeute, tu te fais que la thérapie des schémas et deux, trois autres trucs. Et des TCC, par exemple, c'est super aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une histoire d'un petit peu d'engouement, de trucs magiques. C'est pas magique. Ça marche, il y a des raisons pour lesquelles ça fonctionne.
Et... Puis il y a peut-être des modes aussi en psychothérapie.
Ouais, mais pourquoi ça serait venu à la mode ? Oui, je suis d'accord, peut-être ça a été à la mode. Alors peut-être que maintenant un peu moins, je trouve que la thérapie des schémas, ça se développe. En ce moment-là, je trouve qu'il y a une mode de l'ICV, même si moi, ça me convainc moins comme truc. Mais voilà. Après, il faut voir dans le temps comment les trucs... une mode, ça peut être bien parce que ça fait connaître des trucs. Comme parfois, on dit, il y a la mode de certains troubles ou certains types de fonctionnement. En ce moment, on dit, c'est la mode du TDAH. Il y a des gens qui disent, oui, il ne faut pas dire ça parce que ça dévalorise. Non, moi, je trouve que dire qu'il y a une mode, c'est l'avantage, c'est que ça fait connaître des choses. Après, c'est pas parce que tu les connais que voilà, faut pas non plus après faire de la fausse info sur les trucs. C'est bien qu'on puisse connaître certains troubles pour aider les gens qui en souffrent peut-être à se dire que voilà, ils pourraient aborder les choses sous cet angle-là. Après, ça suffit pas à une mode. Quoi. Moi, je trouve que la mode, c'est une sorte de bon marketing, on pourrait dire, même si voilà, c'est des associations de termes qui hérissent le poil de certaines personnes. Bon, moi, tant que ça aide les gens, moi, après, ça me pose pas de problème. Mais donc voilà, je pense que ça a été connu pour ça. C'est qu'à un moment, il y a eu un gros engouement. Ça a beaucoup été développé. Mais ça tient sur la durée, en fait. Moi, c'est ça qui m'importe. C'est pas... Ça tient sur la durée, les recherches sont vraiment intéressantes, ça nous permet d'approfondir des trucs, donc c'est pas magique, mais ça reste selon moi, sur un plan professionnel, pédagogique et même technique, moi je trouve que c'est hyper intéressant, passionnant et fantastique. Mais de même que la thérapie des schémas est super.
Et est-ce qu'avec le MDR, on peut traiter tous les types de problèmes ?
Alors ça, c'est ouais, une question, je pense, intéressante, sur laquelle c'est important de dire des choses, parce qu'on peut avoir cette impression, en fait, dans certains milieux. D'ailleurs, il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui m'ont dit, bah, en fait, si on t'écoute, on a l'impression que le MDR peut tout traiter, tout résoudre. Et donc, on reviendrait à cette idée que ce serait magique. Alors, non. Moi, je pense que ça peut résoudre beaucoup de choses, parce que, notamment, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a cette hypothèse qui se développe de plus en plus, que derrière la majorité des troubles, il y aurait des traumatismes. C'est-à-dire que, bien sûr, derrière certains troubles, il y a des éléments génétiques. Bon, bah ça, pour le coup, c'est pas lié au traumatisme. Mais ces éléments génétiques sont associés parfois à des événements insuffisamment intenses pour qu'on puisse les nommer traumatismes. Notamment, on commence de plus en plus à travailler avec ce qu'on appelle les traumatismes d'attachement. Donc ça va être des choses qu'avant, on n'appelait pas traumatisme. On pensait que c'était des éléments bateaux, ou peut-être, entre guillemets, normaux, ou un peu intenses émotionnellement, mais pas si graves. Mais en fait, on commence à se dire, en fait, quand ça dure dans le temps, ça devient traumatique. Donc on s'intéresse de plus en plus aux troubles de l'attachement, et aux traumatismes d'attachement, et aux traumatismes complexes, qui sont des enchaînements de entre guillemets petits événements, mais qui en fait ont créé un apprentissage traumatique. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, cette hypothèse, de dire, mais peut-être que si on n'avait pas vécu tous ces trucs, bah, les troubles dont souffrent les gens ne se seraient pas installés. Voilà. Donc, c'est ça qui fait qu'on se dit de plus en plus. Et pour l'instant, ça reste une hypothèse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est en recherche. C'est-à-dire, on fait des recherches sur EMDR et dépression, par exemple. Et c'est assez prometteur. On fait des recherches sur EMDR et troubles anxieux, EMDR et troubles borderline, EMDR et troubles dissociatifs. Donc, on n'est pas en train de dire ça guérit tout et c'est fantastique. On fait l'hypothèse que derrière tous ces troubles, il y a des traumatismes qui sont constitutifs. Et que donc, si tu trouves ces traumas et que tu les traites, tu vas diminuer les symptômes, voire les faire disparaître. Et cette hypothèse, elle est en train d'être, passée au filtre scientifique. La science, parfois les gens pensent que c'est quand on a vérifié quelque chose et que c'est certain. C'est pas ça la science. La science, c'est une démarche. La démarche scientifique, c'est-à-dire, en gros, je fais une hypothèse et maintenant je vais faire des études avec des méthodes particulières qui me permettent de vérifier ou pas vérifier l'hypothèse. Alors, c'est pas toujours simple, justement, de trouver la bonne méthode. Hein. Souvent, en psychothérapie, on a des méthodes qui sont pas hyper fiables pour tout un tas de raisons. Bon, je vais pas les développer ici, puisque dans la conférence du mois d'octobre, on va décrire tout ça, puis là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est ça, la démarche scientifique. Dire que quelque chose est scientifique, c'est dire, j'ai fait une hypothèse, j'essaye de trouver une méthode qui me permet de la vérifier ou de l'infirmer, et puis j'en tire une conclusion. Et la conclusion, elle est pas toujours certaine. C'est des statistiques, c'est statistiquement ma conclusion, voilà, elle donne ça. Et c'est ça la démarche scientifique, hein. Je précise parce que parfois pour les gens, une approche scientifique, c'est une approche, on dit c'est sûr que ça marche si on fait ça. Non, ça n'existe pas en psychothérapie, ça marchera pas comme ça. Et donc, le MDR est une approche scientifique parce que elle fait des hypothèses et elle essaye de créer des méthodes de vérification pour en tirer des conclusions. Et donc, c'est ça qui est fantastique. Et donc, si on prend ça, c'est prometteur pour la dépression, c'est prometteur pour les troubles anxieux, c'est globalement avéré pour le stress post-traumatique simple, donc c'est prometteur aussi pour le stress post-traumatique complexe, c'est prometteur pour les troubles dissociatifs. Il y a des choses qui sont faites pour les TCA, pour l'instant j'ai pas l'impression que... Enfin, les troubles des conduites alimentaires. J'ai pas l'impression que c'est très poussé pour l'instant, mais ça pourrait l'être, parce que régulièrement, les personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires ont aussi vécu des traumatismes, et on fait l'hypothèse on a l'impression, de manière empirique, que c'est régulièrement des traumatismes d'attachement. Donc je pense qu'il va y avoir des recherches sur ce sujet dans un certain temps. Voilà. Donc, est-ce que ça traite tout ? Si tu me poses la question de manière sûre, je te dirais non, absolument pas. Ça traite pas tout, ça traite les traumas, a priori assez bien. On fait l'hypothèse que ça pourrait traiter beaucoup plus que ça, tout, sûrement pas, je pense pas que voilà, ça, y a rien qui peut tout traiter. Et après, la question va devenir plutôt, est-ce que ça correspond à tous les patients ?
Ah, c'est ce que j'allais te demander comme question, est-ce que ça correspond à tout le monde ? Est-ce que si je sonne chez toi, j'arrive et je dis, je viens parce que j'aimerais faire des séances de MDR, est-ce que tu dis, ok, c'est parti ?
Alors moi, oui. Oui, parce que personnellement, je trouve que c'est une super porte d'entrée. Comme je te disais, moi, je vais travailler avec le MDR et quand je vois qu'il y a quelque chose qui bloque, je vais passer sur une autre approche. Le patient ne s'en rend pas compte, mais moi, je sais que je suis en train de passer sur autre chose. Donc, en fait, pour moi, le MDR, c'est une bonne porte d'entrée. Et puis, tu vois ce qui se passe en EMDR, en fait. Si ça se passe bien, bah, tu restes sur le MDR et tu vas faire que ça. Et sinon, tu vas passer sur autre chose. Alors, voilà, moi, c'est la thérapie des schémas ou la dissociation structurelle, mais pour d'autres psy, ça peut être autre chose. Il y en a qui font d'autres approches que le MDR qui ne sont pas les mêmes que moi. Donc je te dirais, pour moi, oui, je vais te dire, ok, on va tester. Après, moi, je fais partie des psys qui prennent beaucoup de précautions avant de commencer le MDR, parce que quand même, il faut se confronter à certains événements, et de mon point de vue, c'est important de le faire avec beaucoup de précautions. Je sais que tout le monde pense pas pareil, et si les personnes qui sont abonnées à la lettre psy, j'avais fait un article sur ça il y a quelques semaines, sur le fait qu'il y a un débat, voilà, il y a des gens qui disent qu'il faut y aller tout de suite parce que sinon on perd du temps, et d'autres qui disent non, il ne faut pas y aller tout de suite parce qu'en fait on prend des risques pour le patient, même si il y a 1% de risque, bah 1% c'est trop, et donc faut pas le faire. Donc voilà, moi je fais partie plutôt de cette école-là, donc je vais prendre du temps, c'est-à-dire moi je ne ferai pas faire de désensibilisation avant régulièrement une dizaine de séances. Si le patient a déjà fait plein de MDR par le passé, plein de thérapies, etc., je peux peut-être aller plus vite. Mais sinon, moi, je commence par traiter avant avec d'autres choses. Et puis parfois même, en fait, on fait d'autres choses avant, on n'a même plus besoin de faire de l'EMDR. Moi, si j'ai possibilité de ne pas confronter un patient à des événements qui ont été hyper difficiles pour lui, je le fais pas, en fait. Je veux dire, je vais le faire si... Bah, je pense que c'est vraiment utile et que ça va être aidant, mais si en faisant juste de la stabilisation, après le cerveau il reprend son fonctionnement adaptatif, j'ai envie de dire bah, pourquoi je le ferais en fait. Donc voilà, bref, ça pour dire, oui, moi je vais te dire, tu veux tester le MDR, très bien, on va faire l'anamnèse, donc l'histoire de vie, on va voir si on arrive à trouver des événements de vie dont on pense qu'ils sont responsables aujourd'hui des symptômes pour lesquels le patient vient, et en fait bah, ça n'arrive pas qu'on peut pas en trouver, parce que si on cherche tu vas en trouver, puis on a des approches pour ça, et puis bah, après on va tester comment ça fonctionne.
Donc en fait, ce que tu vas dire, c'est que tu vas commencer ta phase 1, 2, 3 de MDR.
1 et 2, oui.
3, 1 et 2.
3, c'est juste avant la 4, donc je ne sais pas forcément.
Mais... la 4, il n'y aura peut-être pas forcément besoin pour tout, finalement.
Pour moi, oui. En tout cas, dans ma manière de pratiquer le MDR, oui. C'est-à-dire que parfois, je vais pas proposer de désensibilisation, ou parfois je vais la proposer bien plus tard, parce que j'estime soit le patient c'est trop intense pour lui, soit j'estime que ça lui convient pas à son fonctionnement. Et c'est pour ça que pour moi, c'est extrêmement important dans la phase 1 de déjà savoir faire un diagnostic psychiatrique, c'est-à-dire que même si en tant que psychologue on ne peut pas poser un diagnostic psychiatrique, c'est-à-dire tu ne peux pas médicalement attester, voilà, ce patient a un trouble de la personnalité borderline, un trouble bipolaire, un trouble anxieux, un trouble dépressif, etc., ou un TDAH, toi, il faut que tu saches le faire, parce que s'il y a ça, en tout cas, selon ma façon de travailler, c'est important que tu puisses orienter vers des personnes qui vont pouvoir donner une médication quand il y en a besoin. Moi, je vois pas pourquoi on laisserait des gens souffrir si on a une médication qui peut les apaiser. Bien sûr, la plupart du temps, dans la plupart des troubles, la médication, elle va être éphémère et temporaire. Mais je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faudrait extrêmement souffrir, enfin, moi, pour avoir souffert d'un trouble anxieux généralisé, voilà, j'aurais aimé qu'on me propose, pendant les débuts de ma thérapie, une médication, je l'ai eu bien plus tard, et ça m'a apaisé, et ça a accéléré ma thérapie, et après j'ai pu arrêter les médicaments. Donc voilà, pour moi c'est très important qu'on sache faire des diagnostics psychiatriques pour pouvoir réorienter dans la phase 1. Et puis ensuite, dans la phase 2, faire ce qu'ils appellent en TCC une analyse fonctionnelle, c'est-à-dire qu'en dehors du diagnostic psychiatrique, tu fais l'analyse de comment fonctionne ton patient. Même si tu as fait, je sais pas, un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, bon, je prends cet exemple parce qu'on a fait une vidéo là-dessus récemment, mais imaginons, tu penses qu'il y a ça, tu penses que ton patient a besoin, dans un premier temps, de médicaments pour apaiser certains symptômes qui sont trop envahissants dans sa vie de tous les jours, voilà. Mais après, entre deux personnes qui souffrent de ce trouble-là, tu peux avoir des grandes différences dans leur fonctionnement. Tu vas avoir des symptômes un peu similaires, mais ils ne viennent pas forcément de la même chose à l'intérieur. Donc toi, en tant que thérapeute, il faut que tu comprennes, même en tant que thérapeute EMDR, comment fonctionne, qu'est-ce qui déclenche ton patient exactement, quelles sont les pensées qui sont déclenchées. Il y en a, ça va être des pensées de l'ordre de la culpabilité. C'est de ma faute, je suis responsable de ci ou de ça. Et donc, tu auras vraiment besoin de traiter cette intensité émotionnelle de la culpabilité. Mais il y en a d'autres, ça va être plutôt, je suis en danger, je vais mourir. Tu vois, moi, c'est quand j'avais mon trouble anxieux généralisé, c'était ça. C'est pas pareil non plus si t'as je dois subir, je suis incapable de gérer cette situation. Enfin, tu vois, en fonction des fonctionnements internes de la personne, bah, tu vas pas faire les choses de la même manière, tu vas pas traiter les mêmes choses. Donc il faut faire cette analyse fonctionnelle pour pouvoir comprendre comment fonctionne ton patient, et après, seulement tu vas pouvoir proposer des choses. Et donc c'est là qu'on a besoin de savoir faire ça pour pouvoir adapter. Est-ce que je fais de l'EMDR tout de suite, enfin, est-ce que je fais de... je parle comme les patients. Est-ce que je fais de la désensibilisation tout de suite, puisque ça c'est déjà de l'EMDR. Est-ce que je fais de la désensibilisation tout de suite, ou est-ce que je vais plutôt commencer par un travail dissociatif ou de reparentage, enfin voilà, donc c'est important pour moi d'avoir pas que l'EMDR, même si, pour avoir fait des formations avec Dolores Mosquera, qui est vraiment hyper intéressante, c'est quelqu'un qui travaille justement sur les troubles de la personnalité, notamment narcissique et borderline, et antisocial, dans son centre en Espagne, là, et elle commence à expliquer qu'on peut quand même travailler avec l'EMDR, c'est juste qu'il faut faire attention, tu vas pas cibler des événements de vie, tu vas cibler d'autres choses, et en fait, bah, ça lui permet quand même de traiter des troubles dissociatifs, des troubles de la personnalité, donc c'est aussi très intéressant. On pourrait traiter avec l'EMDR d'une manière autre qu'en passant par exemple par du reparentage, etc. Voilà, elle fait de la recherche là-dessus, hyper intéressant. Bon voilà, je me suis un peu perdue, mais c'est pour répondre à ta question. Si le patient vient et veut faire de l'EMDR, oui, je vais faire.
Alors, je vais voir si j'arrive à te poser des cols avec des questions très très pragmatiques, tu vois. Est-ce que tu peux faire de l'EMDR avec des personnes qui ne voient pas bien, parce que tu me dis que c'est mouvement oculaire, du coup, c'est les gens qui ne voient pas bien, tu peux leur faire de l'EMDR aussi?
Ah oui, tu vas faire du tapping par exemple, ou enfin, moi je vais mettre les vibrateurs, et pour certains, moi je ne le fais pas ça, parce que j'avais lu des études qui disaient que avec les stimulations auditives, ça marchait moins bien, mais tu peux faire aussi avec des stimulations auditives.
D'accord, donc ça marche aussi. Alors, deuxième call, est-ce que tu peux faire du coup de l'EMDR en visio?
Oui, tu peux faire de l'EMDR en visio. Alors, tu as plusieurs manières de faire. Celle qui est la plus développée, c'est celle qu'on va faire avec les enfants. Donc, on va faire ce qu'on appelle le câlin du papillon. Donc, en fait, c'est le patient qui se fait lui-même les tapotements et toi, tu vas guider. Tu vas dire là, vous pouvez commencer, là, vous pouvez arrêter, là, vous allez plus vite, là, vous faites comme ci, enfin, comme ça. Tu vas guider. Après, on peut faire avec les mouvements oculaires. En fait, tu peux demander au patient d'avoir une feuille A3, c'est mieux, pour que ce soit le plus large possible, parce que a priori les mouvements oculaires qui ont été étudiés, il vaut mieux que ce soit vraiment d'un côté à de l'autre, vraiment des yeux, quoi, faut que ce soit assez large en fait.
Et champ de vision.
Et donc tu vas demander au patient de faire des mouvements avec sa main, donc avec une seule main, et il faut qu'il suive sa main. Voilà. Moi je fais pas ça. On peut faire ça notamment quand on fait de l'EMDR en groupe, pour les interventions notamment récentes. Parce que tu peux pas toi-même stimuler de manière oculaire tous les participants puisqu'ils sont en groupe, tu peux faire ça. Voilà, t'as des manières. C'est le patient qui se fait les stimulations, mais par contre, c'est le thérapeute qui guide. Là, vous commencez, là, vous arrêtez, là, vous commencez, là, vous arrêtez.
Bon, alors, troisième call, est-ce que tu peux faire de l'EMDR en thérapie de couple?
Alors, ça, c'est toute une question. Donc, tu peux, puisqu'on peut le faire en groupe. Il y a des protocoles de groupe de MDR, donc tu peux. Après, moi je te dirais, c'est toute la question qui est en débat, parce qu'il y a des gens qui ont écrit des bouquins sur comment on fait de l'EMDR en couple. Est-ce que c'est adapté de faire de l'EMDR avec quelqu'un avec qui tu es en conflit? Parce que quand tu viens en thérapie de couple, en général, c'est que ça se passe pas hyper bien. Donc aller faire de l'EMDR en présence de l'autre, voilà la question. Moi, ma réponse, c'est non, ça n'est pas adapté. Il y a d'autres thérapeutes qui ont écrit des bouquins et qui disent si, c'est adapté parce que justement, ça recrée de l'empathie, etc. Moi, je pense que c'est toujours comme le truc de tout à l'heure. Oui, c'est possible. Ça peut recréer de l'empathie. Moi, maintenant, du moment où il y a trop de risques, ou en tout cas, j'estime qu'il y a trop de risques, je le prends pas. Voilà, donc il y a toujours du risque, bien sûr, mais pour moi, il y a trop. Enfin, j'estime, en tout cas, ma propre sensibilité me dit il y a trop de risques. Ou peut-être en fin de thérapie, pourquoi pas, mais pour moi, je trouve qu'il y a trop de risques. Pour qu'on le fasse, autant que chacun aille en thérapie individuelle faire de l'EMDR, et après on fait de la thérapie de couple, on a plein d'autres approches pour créer de l'empathie, voilà. Donc moi je te dirais non, mais il y en a qui te disent oui.
Cet épisode est maintenant terminé, merci pour votre écoute. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Déjà, ça nous fera plaisir, mais cela permettra à notre podcast d'être recommandé à d'autres personnes qui pourraient aussi l'apprécier. D'avance, merci beaucoup, et à bientôt.